Bonsoir à tous et à toutes. Donc, ce soir, c'est une conférence toujours en lien avec la prière. On avait parlé un petit peu de la dernière fois de la difficulté qu'on peut rencontrer dans la mission quand on se trouve en butte avec des choses faussées, c'est-à-dire avec des lois qui ne sont pas très justes, avec des fonctionnements qui ne sont pas très justes, avec des propos auxquels on a du mal à apporter une réponse chrétienne, parce qu'on se sent un peu sali par un système, un fonctionnement, et on avait dit que c'était ça, dans la Bible, ça correspondait à Magog, c'est-à-dire une des deux manières dont le malin s'y prenait pour perdre l'homme et la femme, c'était de semer de l'ivraie dans le champ qu'est le monde, de semer de l'ivraie et de faire en sorte qu'on en mange. On n'arrive plus à faire la différence entre le blé et l'ivraie, et que petit à petit on s'habitue à un environnement où le mal est banalisé, quoi. Voilà. Donc ça, c'est Magog, c'est la persécution cachée. C'est dans l'Apocalypse, ça correspond à la bête panthère, c'est-à-dire qui avance à pas de velours et qui va transformer le système, qui va transformer le monde de manière négative et provoquer petit à petit une persécution des chrétiens, même si c'est pas forcément une persécution forte. Ça va être un décalage progressif. On peut penser par exemple à Daniel dans la fosse aux lions, dans la Bible, où d'un coup il y a une loi qui sort pour interdire de se prosterner devant d'autres personnes que le roi. Et Daniel se retrouve hors la loi du jour au lendemain. Et on a la même chose dans le livre des martyrs d'Israël, le livre des Maccabées, avec les frères qui refusent de se prosterner devant le roi. Voilà, ça c'est Magog, c'est vraiment le changement progressif des mentalités. Et on avait dit qu'en France, il y avait des choses qui s'étaient passées, enfin auxquelles on pouvait penser, notamment par exemple la Révolution française, qui déclarait que l'État, progressivement, que la France n'a pas besoin de Dieu. La loi de 1905 qui a continué ça en disant l'État n'a pas besoin de Dieu, on peut mettre une séparation parce que il faut déréguler le fonctionnement de l'État. On a ça avec l'économie, en disant on laisse l'économie à elle-même, le bien se fera de lui-même, et on voit bien que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Si chaque personne à l'échelle individuelle ne met pas de l'humanité pour arracher l'ivraie ou demander au Seigneur de venir arracher l'ivraie, il y a des mauvais fonctionnements qui s'instaurent. Les entreprises, de la même manière, il y a des mauvais fonctionnements où on se cache derrière des lois qui ne sont pas toujours bonnes. Et nous, on est un peu en difficulté parfois en tant que chrétiens, parce que on se retrouve à dire il faut que j'applique la loi, parce que ça vient aussi du Seigneur, les lois, et en même temps il y a des lois, je vois bien que tout n'est pas juste, et ça c'est difficile. Il y a des paroles comme celle du Christ où il dit qu'il est au-dessus des lois, Jésus, et que les fils de Jésus, en fait les baptisés, sont au-dessus des lois, et c'est difficile à mettre en application. Et aujourd'hui on parle de la deuxième forme de persécution, qui est la persécution frontale, la persécution violente, où on va obliger quelqu'un. Alors ça peut être par des paroles extrêmement violentes, une forme de manipulation, mais frontale, qui fait froid dans le dos un petit peu. C'est pas la manipulation lente, mais plutôt la parole d'effroi, voilà. Et c'est Gog, dans la Bible, c'est Gog. Donc on le trouve, on avait lu cet extrait-là la dernière fois, dans le prophète Ézéchiel au chapitre 38, où il parle de Gog, ce roi infâme qui exerce la violence au pays de Magog, c'est-à-dire ce roi qui va petit à petit transformer le pays en semant de l'ivraie, de manière cachée, non pas comme Dieu qui fait les choses dans la lumière, mais qui va faire les choses en douce, ou qui va provoquer des lois en disant c'est pour telle raison, et puis petit à petit les raisons se transforment. On voit bien les lois pour l'avortement, c'est comme ça que c'est passé. Au départ c'était oui, mais c'est dans tel cas particulier, etc. Et on voit bien que il y a d'autres choses, comme les lois sur l'euthanasie, si ça sort, ça va être pareil, ça va être dans le cas particulier d'une personne qui vraiment, puis petit à petit ça risque de devenir un droit de dire allez, on pousse les personnes âgées, parce que après tout, vous voyez, et ça c'est vraiment Magog, et le roi qui veille sur ce champ d'ivraie, c'est Gog, c'est celui qui va, dont le but ça va être de persécuter le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, alors pourquoi on parle de ça? C'est parce que je pense que dans notre civilisation, on est peu confronté aux persécutions vraiment fortes. On en a un petit peu, des persécutions en France, parce que de temps en temps, voilà, on nous On nous dit on va vous interdire de faire une crèche ou de faire une procession ou de il y a déjà un début de persécution, même si c'est pas de la persécution avec une effusion de sang, mais quand on regarde les premiers chrétiens, ils étaient prêts aux martyrs en fait, et parce que ça leur apparaissait comme le sommet de la réussite sociale d'être martyr quoi. Et nous on se dit non, jamais moi je voudrais être martyr parce que c'est pas notre fonctionnement, et finalement normalement il y a un lien entre la prière et la croix, et entre la croix et l'acceptation de ce que le Seigneur va nous demander, parce que plus on sera préparé à des éventuelles persécutions, plus ça passera comme une lettre à la poste, parce que Jésus dit bien que dans ces cas-là l'Esprit Saint va nous être donné, et puis que ça va être plus facile que ce qu'on imagine avec notre réflexion humaine. Donc, ça sera en plusieurs parties. D'abord, une partie un petit peu plus longue, le pourquoi et comment la persécution. Comment ça vient? Alors, j'ai parlé un petit peu de celui qui va semer de l'ivraie, et ça, c'est une, voilà, la fausseté qui grandit va mener à la persécution. Mais on va se placer aussi du point de vue du persécuteur. Que se passe-t-il dans la tête du persécuteur, et comment être pris de miséricorde pour le persécuteur? Parce que c'est ça un petit peu ce qui fait que la persécution est plus douce, parce qu'on est pris de pitié pour celui qui s'égare, quoi. C'est comme ça que, en tout cas, que Jésus a vécu sa croix. On va parler un petit peu du rugissement, qui est un élément particulier dans les persécutions. Le rugissement, donc, c'est la parole qui glace d'effroi. La parole violente qui glace d'effroi. Voilà, il y a des rugissements, on en trouve un peu partout. On va parler de la juste attitude du persécuté. Voilà, quelques éléments pour finalement se repérer en période de persécution. Alors, persécution, évidemment, les petites et les grandes persécutions. Dans notre vie, on a toujours des petites persécutions, au moins. On va parler des grâces lors de la persécution. On reçoit beaucoup de grâces, et ça vaut le coup qu'on en parle. Et on dira un petit mot sur les signes précurseurs des persécutions. Voilà. Et je vais m'appuyer principalement sur des éléments bibliques. Moi, j'ai une passion, un amour pour la parole de Dieu. Je trouve que c'est une manière universelle de parler de Dieu. Certains ont des charismes pour parler des saints, pour parler des pères de l'Église, etc. Une Bible, c'est ce qu'on a tous chez nous, et j'aime bien ce concept de pouvoir, à partir d'un passage, regarder ce qu'il y a derrière, pour qu'ensuite on puisse méditer là-dessus en repartant chez nous, rouvrir notre Bible, etc. Alors, pour commencer la première partie, pourquoi et comment la persécution ? Il y a cette question de qui est visé. Et il y a un extrait du livre de la Sagesse, au chapitre 1, verset 16, et les versets suivants, qu'on lit régulièrement dans la liturgie. Donc c'est Sagesse 1, verset 16, et suivant. Mais les impies, donc ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui s'éloignent de Dieu de manière volontaire, ont invité l'Hadès du geste et de la voix. S'éprenant d'amitié pour lui, ils se sont pâmés. Puis ils ont conclu un pacte avec lui. Aussi méritent-ils d'être de son parti, car ils se disent entre eux avec de faux raisonnements, elle est courte, elle est triste, notre vie, il n'y a pas de remède quand l'homme touche à sa fin, et personne, à notre connaissance, n'est revenu de l'Hadès. Nous sommes nés à l'improviste, et après ce ne sera comme si nous n'avions pas existé. Le souffle dans nos narines n'est qu'une fumée, la pensée, une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Qu'elle s'éteigne, le corps se résoudra en cendres, et le souffle se dissipera comme l'air fluide. Notre nom sera oublié avec le temps, et personne ne se rappellera nos actions. Notre vie aura passé comme un nuage, sans plus de traces. Elle se dissipera telle la brume, chassée par les rayons du soleil et abattue par sa chaleur. Notre temps de vie ressemble au trajet de l'ombre, et notre fin ne peut être ajournée, car elle est scellée et nul ne revient sur ses pas. Eh bien, allons, jouissons des biens présents, profitons de la création comme du temps de la jeunesse, avec ardeur. Du meilleur vin et de parfums enivrons-nous. Ne laissons pas échapper les premières fleurs du printemps. Couronnons-nous de boutons de rose avant qu'elles ne se fanent. Qu'aucun de nous ne manque à notre fête provocante. Laissons partout des signes de notre liesse, car c'est notre part, c'est là notre lot. Opprimons le pauvre qui pourtant est juste. Là, donc, on a eu une profession de foi de celui qui dit « Je veux m'éloigner de Dieu et voilà pourquoi. » Et là ensuite, on arrive à l'oppression. Opprimons le pauvre qui pourtant est juste, n'épargnons pas la veuve, n'ayons pas égard aux cheveux blancs du vieillard, mais que pour nous, la force soit la norme du droit, car la faiblesse s'avère inutile. Traquons le juste, il nous gêne, il s'oppose à nos actions. Il nous reproche nos manquements à la loi, il nous accuse d'être infidèles à notre éducation. Il déclare posséder la connaissance de Dieu, il se nomme enfant du Seigneur. Il est devenu un reproche vivant pour nos pensées, et sa seule vue nous est à charge. Sa vie ne ressemble pas à celle des autres. Sa conduite est étrange. Il nous considère comme une chose frelatée. Il s'égare de nos voies comme de nos souillures. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour père. Voyons si ses paroles sont vraies. Vérifions comment il finira. S'il est juste et fils de Dieu, alors celui-ci viendra à son secours. Il l'arrachera aux mains de ses adversaires. Mettons-le à l'épreuve par l'outrage et la torture pour juger de sa sérénité et apprécier son endurance. Condamnons-le à une mort honteuse, puisque selon ses dires, une intervention divine aura lieu en sa faveur. Voilà. Donc ça, c'est un texte de la sagesse que je trouve très beau, qui dit, premièrement, Dieu n'a pas créé la mort. Premièrement, Dieu n'a pas créé la mort. Deuxièmement, voilà en quoi je crois. Je crois que tout est vain, il n'y a pas de vie éternelle, je vais jouir des biens présents et je vais faire des fêtes provocantes. Et je vais me mettre à être injuste avec les pauvres d'abord. Et ensuite avec les justes qui ont plus de force intérieure puisque leur vie réglée, leur vie juste, est un témoignage pour nous qui nous heurte et qui va nous perturber, qui va en fait être un petit peu le garde-fou qui va nous empêcher d'aller jusqu'au bout dans nos actions, parce que le juste est dans la même entreprise que moi, et il est sans arrêt à essayer de pratiquer la justice. Et voilà, donc ça c'est un petit peu ce qu'on peut entendre dans la bouche d'un persécuteur en caricaturant le persécuteur, quoi. Voilà. Donc qui est visé ? Dans la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens, on lit au chapitre 6 « Car nous ne luttons pas contre des hommes, mais contre les forces invisibles, les puissances des ténèbres qui dominent le monde, les esprits du mal qui sont au-dessus de nous. » C'est vraiment quand une personne se met à entrer dans ce débat-là intérieur en disant « Je vais rejeter Dieu pour telle et telle raison » et petit à petit, par un mouvement volontaire, non pas « Je ne sais pas que penser de Dieu », mais plutôt « Je ne veux pas de Dieu, je le refuse, s'il existe. » Il y avait quelqu'un, je ne me rappelle plus qui disait « Moi, quand je mourrai, même si Dieu se présente à moi, je n'y croirai pas. » Et c'est vrai que la profession de foi athée, c'est ça, c'est de dire « je n'en veux pas, quoi ». Voilà. Et aujourd'hui, alors le mot athée a deux significations. Le athée, ça peut être soit l'esprit d'incrédulité, soit la personne qui, de fait, ne connaît pas Dieu et qui dit « à mon avis, il n'existe pas de Dieu ». Mais une personne qui dit « il n'existe pas de Dieu, mais s'il existe, bah pourquoi pas ?» Finalement, il est plus proche de l'agnostisme, même si dans la pratique il est athée. Alors que celui qui, un vrai athée, il va dire « je refuse de croire en Dieu et je ne souhaite pas qu'on m'en parle ». Donc c'est celui qui est persécuté, en fait, à travers ses forces des ténèbres qui vont influencer une personne négativement, c'est Dieu lui-même. C'est d'abord Dieu qui est visé, c'est pas une personne, la personne persécutée. En second lieu, c'est le peuple de Dieu. Et de manière principale, le Messie de Dieu, c'est-à-dire celui qui va, dans le peuple de Dieu, avoir cette capacité de racheter un grand nombre de personnes. Dans le peuple de Dieu, aujourd'hui, ça va être le prêtre qui a un rôle central. Les prêtres, aujourd'hui, sont malmenés par les forces des ténèbres. Et il va y avoir une persécution régulière de la part de tout un tas de gens, parce que on va s'acharner contre cet homme qui a refusé la vie conjugale en disant « Moi, je veux être un signe du royaume de Dieu, quoi. » Voilà. Et en second lieu, ce sont les membres du peuple de Dieu. Voilà. Alors, on va regarder l'histoire de Caïn et Abel dans le quatrième chapitre de la Genèse. Caïn qui est le premier persécuteur et Abel le premier martyr. Donc, on a cette histoire. Alors, je vous ai imprimé une petite BD. Je me suis dit que si c'était illustré, ce serait plus sympa. Merci. C'est quelqu'un qui faisait des BD un peu trash, un peu, et puis qui n'était pas du tout chrétien, et qui un jour a dit, qui a lu un petit peu la Bible, comme ça, de loin, merci, et il s'est dit, il a été touché par cet ensemble d'écrits qui appartiennent au patrimoine de l'humanité, et il a dit, j'ai envie de faire la Genèse en BD, voilà. Et il s'est renseigné, merci, il s'est renseigné, pour être le plus proche possible du texte original. Et donc c'est une vraie méditation qu'il nous livre là. Et je trouve ça beau parce que, alors, il fait des personnages qui sont très poilus. C'est un peu sa marque de fabrique. Donc on a l'histoire de Caïn et Abel. L'homme connut Ève, sa femme, et conçut, et enfanta Caïn, et dit, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Elle enfanta aussi son frère Abel. Abel devint gardien de moutons. Alors, je fais une parenthèse. Souvent, les gens appelés à des grandes missions, ils sont gardiens d'un troupeau, ils sont bergers. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On a Moïse aussi dans la série, on a David, on a... Voilà. Alors, tandis que Caïn cultivait la terre. Et il advint après un certain temps que Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel apporta aussi les meilleurs premiers-nés de son troupeau. Et l'Éternel tint compte d'Abel et de son offrande, mais Caïn et son offrande, il n'en tint pas compte. Caïn fut très affligé, son visage fut abattu. Et l'Éternel, Dieu, dit à Caïn, « Pourquoi es-tu affligé, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Car que tu offres bien ou que tu n'offres pas bien, le péché est tapis à ta porte, à la porte de ta tente, et c'est toi qui le désires, et pourtant tu peux être son maître. » Et Caïn dit à son frère, « Allons dans le champ. » Et quand ils furent dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Et il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et il dit, « Qu'as-tu fait ? Écoute, le sang de son frère crie vers moi depuis la terre, et donc, maudit tu seras par la terre qui a ouvert grand la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Si tu cultives la terre, elle ne te donnera plus sa force, tu seras un vagabond errant sur cette terre. » Et Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop lourd à porter, à présent que tu m'as banni de la face de la terre, et que je dois me cacher de ta face et être un fugitif et vagabond, quiconque me trouvera me tuera. » Et l'Éternel lui dit, « Ainsi quiconque tuera Caïn subira 7 fois la vengeance. » Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Alors, oui, donc, pourquoi et comment la persécution dans cette partie ? On va parler de Caïn et Abel. On va regarder aussi Ésaü et Jacob, parce qu'il y a une persécution de Jacob par son grand frère Ésaü. Et on va regarder aussi la persécution de David par Saül, le roi, qui le persécute, qui veut le tuer. On voit dans ce premier itinéraire de persécution... Le sacrifice est premier pour Abel. Hein. Abel offre les prémices de son troupeau et les premiers-nés de son troupeau, ce qui est le plus important dans ce qu'il a, il l'offre au Seigneur. Un peu comme quelqu'un dirait, moi, dès que je me lève, je prie, ou dès que je voudrais faire quelque chose de bon, je rends d'abord grâce au Seigneur et ensuite je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Et alors que Caïn a une attitude plus servile où il va dire, bon, je me sens un peu obligé. On voit un petit peu sa tête, hein. Là, je trouve que c'est très bien traduit, puis il a force un panier bien lourd en se disant « bon, bah, c'est bon, avec ça, il va me lâcher, quoi ». Et puis il fait son offrande, et l'Éternel manifeste un petit peu qu'il agrée l'offrande d'Abel de cette manière-là, en accueillant cette offrande pour montrer à Caïn « tu peux encore grandir », c'est une attitude paternelle, en fait. Hein. Voilà. Mais effectivement, ça n'apparaît pas forcément à la première lecture. Et Dieu n'est pas inactif, et c'est très paradoxal parce que on s'attendrait à ce que Dieu aille voir Abel en disant faut que tu surveilles tes arrières, je crois que ton frère mijote quelque chose contre toi, et pas du tout. Il va voir Caïn. Il va voir Caïn en lui donnant une parole pour lui permettre de se racheter, en lui disant je t'envoie un rappel à l'ordre pour que tu réfléchisses sur ton attitude parce que moi, ton père, je vois que tu es sur la mauvaise pente en fait. Moi, je trouve que c'est renversant parce que le Seigneur entre en dialogue avec le meurtrier. Parce que là, alors, on voit l'Éternel qui agrée l'offrande d'Abel. Alors, on ne sait pas s'il le voyait vraiment avec leurs yeux. Là, c'est mis en image. Mais on a l'impression que l'Éternel se fait plus proche de Caïn que d'Abel. En fait, c'est un peu comme si dans sa prière, Caïn avait une faculté particulière à être touché par le Seigneur. « et il lui dit en fait deux choses. Pourquoi ton visage est abattu? Il l'invite à rentrer en lui-même. Pourquoi es-tu abattu? Parce que la réponse c'est parce que tu as le cœur triste. Tu as quelque chose en toi qui semble blessé par cet état de fait, par cette situation. Et ensuite, une fois qu'il l'invite à rentrer en lui-même, à faire le bilan sur ce qu'il est en train de penser, il l'invite à réfléchir au choix qu'il a devant lui. Il lui dit, en fait, tu as le choix avec le péché. Le péché est tapis à ta porte, mais c'est à toi de maîtriser ce chien enragé qui est devant toi. Ne te sens pas abattu par ce sentiment d'abandon, cette jalousie, en fait. Voilà. Et on voit bien que c'est de la jalousie parce que ça, c'est la première chose qu'on peut dire sur pourquoi et comment la persécution. Le premier élément dont se sert le malin pour utiliser le persécuteur à son avantage, c'est la jalousie. Et il est jaloux de quoi? Il semble être jaloux de la relation entre Dieu et Abel, en fait. Hein, parce que Dieu aurait agréé l'offrande d'Abel, et donc c'est comme si Abel avait une relation plus approfondie avec Dieu, alors que là, c'est lui qui est en dialogue avec Dieu, en fait. Il y a une perception faussée, et du coup, la jalousie provoque comme un aveuglement qui l'empêche de voir, oui, mais le Seigneur, il vient de me parler, là, alors pourquoi je me plains, en fait? Alors c'est vrai qu'il y a le reproche, c'est jamais agréable, et pour nous, ça va pas forcément être le Seigneur qui nous apparaît dans une illumination, mais pour un persécuteur, ou de manière plus large, pour quelqu'un qui, à un moment, a du ressentiment contre quelqu'un d'autre, parce que voilà, on est tous dans ce cadre-là, le Seigneur qui ne semble pas agréer notre offrande, ça va être des éléments qui vont nous contrarier, des situations qui vont nous contrarier autour de nous. Voilà, c'est vraiment typique et qui nous donne l'impression que le Seigneur va plus bénir d'autres personnes. Voilà, des personnes qui ont plus de moyens que nous, des personnes qui ont plus la santé que nous, des personnes qui ont plus de chance en amour que nous, etc. Ça, c'est vraiment typique. La jalousie, ça naît de là. Alors que souvent, cette situation que permet le Seigneur est comme un rappel à l'ordre sur des choses sur lesquelles il veut nous ramener, en fait, comme un berger. Parce que la suite que donne le Seigneur à la prière des justes, c'est aussi de ramener ceux qui sont plus loin de lui, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme si c'était injuste, parce que Abel, qui semble avoir une prière plus ajustée, sa prière, il semble que ça serve à ce que le Seigneur aille vers Caïn, en fait. Le Seigneur se fait absent pour Abel pour aller voir Caïn et tenter de le ramener à lui, en fait. Et ça va le conduire au martyr, ce qui est complètement renversant. Donc on voit bien que la jalousie dans la relation à Dieu, c'est Caïn qui vise Dieu en premier et son frère en second. Et par l'intermédiaire de Caïn, en fait, le démon vise Dieu et vise le peuple de Dieu qui est Abel, en la personne d'Abel, qui est injuste, et qui aurait eu sûrement un certain nombre de descendants justes, parce que quelqu'un qui est juste dans la Bible, en général, attire des grâces sur ses enfants, en fait. Hein. Alors on a un dialogue entre Caïn et Abel, qui est raconté dans un targoum, c'est-à-dire un écrit biblique, enfin un écrit juif, qui médite sur des textes, et là c'est la Genèse. Donc ce sont des rabbins qui racontent quand Caïn entraîne son frère au champ. Caïn dit à son frère Abel, viens, sortons tous deux au champ. Et il advint que lorsque tous deux furent au champ, Caïn répondit, et il dit à Abel, je vois que le monde n'a pas été créé par amour, qu'il n'est pas régi selon le fruit des bonnes œuvres, et qu'il y a dans le jugement acception de personne. Voilà, Dieu fait un tri en choisissant de manière arbitraire, quoi. Pourquoi ton offrande a-t-elle été accueillie avec faveur et mon offrande à moi n'a-t-elle pas été accueillie avec faveur? Abel répondit à Caïn en disant, je vois, moi, que le monde a été créé par amour et qu'il est régi selon le fruit des bonnes œuvres, parce que mes œuvres étaient meilleures que les tiennes, peut-être. Mon offrande à moi a été accueillie avec faveur, tandis que ta propre offrande n'a pas été accueillie avec faveur. Caïn répondit et il dit à Abel, il n'y a ni jugement, ni juge, ni un autre monde. Point de remise de récompense pour les justes, ni de châtiment pour les méchants. Abel répliqua à Caïn en disant, il y a un jugement, il y a un juge, il y a un autre monde, il y a remise de récompense pour les justes et un châtiment des méchants dans le monde à venir. Sur cette question, tous deux se querellaient en pleine campagne et Caïn se dressa contre son frère Abel, prit une pierre et le tua. Voilà, donc on a une réflexion quelques siècles avant Jésus-Christ par des juifs qui... c'est vrai que dans toute la tradition juive, quand on parle de Caïn, c'est vraiment celui qui a renié Dieu d'une manière forte. C'était pas juste le gars qui un jour s'est fâché contre son frère. Et ça, c'est quelque chose, finalement, si on se plonge un petit peu dans la tradition juive, on a un éclairage supplémentaire, et il y a certains textes de l'Ancien et du Nouveau Testament qui vont s'éclairer, parce qu'il y a ces présupposés-là que Caïn, c'était quelqu'un d'extrêmement mal barré sur le chemin de la grâce. Voilà. Donc, c'est la deuxième chose, à mon avis, dont se sert le démon pour utiliser un persécuteur, c'est le mensonge et l'incrédulité. Voilà. C'est le fait de... d'entraîner les autres et puis de faire des choses qui sont d'avoir un regard et une action double. Et puis l'incrédulité, on voit bien, c'est de toute façon il n'y a pas de justice dans l'autre monde, donc que je tue ou pas, que je commette l'injustice ou pas, ça n'a aucune importance en fait. On voit que Dieu protège les persécuteurs, déjà parce qu'il vient parler à Caïn, ensuite parce qu'il ne coupe pas avec lui, il vient chercher à le ramener à lui, parce que ce qui inquiète le Seigneur, c'est d'avoir quelqu'un qui est damné pour toujours, qui ne pourra plus se racheter, et surtout que déjà sur la terre, on lui fasse du mal. Et donc il dit à Caïn, je vais mettre un signe sur toi pour ne pas qu'on te fasse du mal. Et on retrouve un petit peu ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est pas à nous d'arracher l'ivraie quand il y a des choses mauvaises dans le monde, c'est il faut toujours prier pour que ce soit le Seigneur lui-même qui combatte le mal, et que quand c'est à nous d'arracher le mal, alors nous on peut arracher le mal de notre cœur, mais quand il y a des choses à combattre, de toujours dire Seigneur, est-ce que tu es sûr que tu veux bien que ce soit moi? Parce que c'est pas à nous d'exercer la justice. Voilà, il y a des anges pour ça, il y a des situations que Dieu utilise, mais il faut savoir que sur la tête des persécuteurs, il y a un signe. C'est-à-dire que le Seigneur met une protection spéciale sur les brebis qui sont le plus loin de lui, comme Caïn, et ce signe, ça va être des choses, des événements, des éléments particuliers qui protègent les gens loin de Dieu pour que Dieu puisse utiliser les circonstances pour ramener in extremis cette personne, en fait. Et nous, on va s'opposer au plan de Dieu si jamais on utilise la violence à l'encontre des persécuteurs, parce que ce n'est pas le moyen courant dont le Seigneur veut se servir contre les persécuteurs. Et alors Abel, donc il meurt, et il doit avoir une fécondité particulière, parce que si je lis la suite du Targum, il est dit « Qu'est-ce que tu as fait? La voix du sang des foules de justes qui devaient naître d'Abel, ton frère, qui crie contre toi de la terre en ma présence. » C'est-à-dire que pour Dieu, si le sang d'Abel a acquis quelque chose de sacré, une valeur inestimable, c'est parce que Abel, le juste, par excellence, a versé son sang, et ce sang qui était porteur de vie aurait dû donner naissance à une multitude de justes. Et en tuant Abel, le persécuteur qui est Caïn a brisé l'harmonie que le Seigneur voulait. Et c'est pour ça que dans toute la Bible, on va trouver toujours une référence au sang d'Abel qui crie vers le Seigneur, on le trouve partout. C'est vraiment le sang par excellence, et ça préfigure évidemment le sang du Christ qui va racheter toute l'humanité. Voilà, le juste par excellence qui verse son sang pour racheter l'humanité. La première persécution. Et donc cette fécondité dans le martyr qu'on voit déjà dans le martyr d'Abel par Caïn.